France Inter.
C'est la bande originale avec Leïla Kadouchlami, Glitza de Moitié, Camille Lavabre, Hugo Becky, Tanguy Pastureau, Aldelaf, Daniel Morin,
bonjour,
et nos invités Camille Rutherford et Charlie Hurt. Ah bah oui,
France Inter.
Mais dans l'anglais.
La bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Bon.
Ah, il faut prononcer comme ça. Rutherford.
Très bien. Ouais. Je dis Rutherford généralement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Enfin, la référence quand même de Rutherford. Vous l'avez musical, la référence musicale.
Genesis.
Genesis. Ouais. Ah bah évidemment.
Mais il y en a beaucoup. C'est un peu l'équivalent de Dupont en fait.
C'est vrai.
Oui.
Ouais, okay. Et Hanson, on avait Richard Hanson, mais vous n'avez pas connu Richard Hanson. Il a fait des comédies musicales en France. Charlie, c'est la première fois que vous venez dans cette émission.
Absolument.
Soyez le bienvenu.
Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là.
Vous serez l'anglais de service, alors que souvent Camille a été l'anglaise de service.
Ah bah non, Rutherford et Hanson. Deux anglais de service.
Moitié française.
Exactement. Ça c'est dans la vie, mais dans le film, vous êtes plutôt...
Ouais.
Elle a des racines, c'est vrai.
De toute façon, pour parler aussi bien anglais, il faut vraiment que ça peut pas être un français de base.
Qu'est-ce que j'ai adoré ce film qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Jane Austen a gâché ma vie, l'histoire donc d'une jeune fille qui veut peut-être s'essayer à l'écriture, mais qui pour l'instant a un job dans une librairie qui existe à Paris, Shakespeare et compagnie, qui est pas qu'une librairie. D'ailleurs, on peut prendre un petit café,
on pouvait faire la sieste, je crois.
Ah bon?
On peut toujours faire la sieste.
Ouais.
Oui, mais toi, tu dors n'importe où aussi.
Il y a des livres, franchement, il y a un sofa, je pense qu'on pourrait faire d'autres.
À partir de novembre, on fait raclette aussi.
Et c'est l'histoire, justement, d'une personne qui est bouleversée, touchée par l'auteur, qui est Jane Austen. Une petite tour de table. Est-ce qu'il y a un livre, un auteur, Leïla Delmoitié, qui a compté dans ta vie, ou qui t'a touché, ou qui t'a. Ou peut-être à la. Auteur à laquelle tu t'es identifié ou auquel tu t'es identifié?
Que je me suis identifiée, non, mais un livre qui m'a beaucoup marqué, mais c'est pas vraiment une fiction, c'est Le mythe de Sisyphe de Camus. Et ouais, du coup, j'en parle même dans mon spectacle, ça m'a beaucoup marqué.
Okay. Ouais. Camille, attends, parle de ton spectacle, Camus,
tu parles
littérature.
Oui, après, c'est 80% vite, mais à un moment, il y a Camus. Juste pour contrebalancer.
Ouais,
c'est
ça,
bien, mais
c'est
je trouve ça bien.
D'où le titre, elle habite à Camus.
Elle habite à Camus. Camille,
non, moi, je pense à une pièce de théâtre, mais c'est un monologue, c'est un seul en scène. Ça s'appelle La voix humaine de Jean Cocteau.
Ouais.
Et voilà, c'est une femme qui parle au téléphone à l'homme qui vient
et ça,
de la
et
cité.
Et ça bouleversait ta vision
mais
de...
En fait, non, mais c'est...
Non, je sais pas, non, mais tu sais, quand t'es...
Ça m'a marqué parce que c'est un livre qui m'a fait pleurer à 80%.
D'accord. Ok, Bruno, Péki, est-ce qu'il y a un...
moi c'est un peu niche, c'est Zep, les albums de Titeuf.
C'est pointu. C'est très suisse.
Exactement, c'est très culturel. Non, sinon un autre truc aussi qui est passé par la Suisse, dans L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, il passe par la Suisse, c'est un livre qui m'a un peu...
Qui t'a touché. Aussi, ouais. Tanguy Pastureau, la littérature a eu un effet sur toi un jour, ou un auteur?
Tout ce qui est l'auteur Jay McInerney, ouais, auteur new-yorkais, que j'adore.
Et j'ai pourquoi tout lu.
Parce que j'aime New York, que j'aime cette ville-là, que j'aurais aimé, je pense, être new-yorkais et traîner dans des cafés, à boire des litres, vous savez, comme ça.
Et c'est quel genre de roman?
C'est des romans qui s'inscrivent dans l'époque où on les lit. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, tout un truc après le 11 septembre 2001, où justement, ils fouillent dans les décombres, enfin voilà, puis ça commence dans les années 80 et on suit comme ça des personnages sur plusieurs décennies, c'est chouette.
Très bien. Aldelaf, est-ce que la littérature t'a touché à un moment, un auteur, un livre, ou peut-être même un personnage?
On peut
rêver d'être quelqu'un aussi.
Chaque jour, c'est Tanguy Pastureau. J'écoute sa prose et je suis touché.
Et tu peux lire son livre aussi.
Exactement.
En même temps.
Ouais.
Leïla, t'as vu, j'ai attendu.
C'est pour me laisser le temps. Bah oui. C'est super gentil. Il y en a tellement, en fait, c'est ça la difficulté. Je dirais que moi, je suis une lectrice des auteurs du 19e que j'adore vraiment. J'adore Balzac parce que la comédie.
19e siècle.
Ouais, 19e siècle. Pas 19e arrondissement.
elle est plutôt 18 pour l'arrondissement.
Elle est très pointue, c'est pour ça.
Elle donne l'adresse.
Elle est très naturelle.
Exactement. Donc moi, j'adore Balzac parce que Balzac me fait beaucoup rire, parce qu'il se moque beaucoup de ses personnages, parce qu'il peint aussi les caractères humains dans tout ce qu'il y a de plus vilain et de plus joyeux. Et je trouve que ça, c'était une forme d'enfant, c'était une forme d'ouverture. Je rencontrais des gens que je ne pouvais pas connaître, en fait. Donc ça m'a vraiment...
De voyage, en fait.
J'ai l'impression d'essayer de comprendre des gens que je ne connaissais pas.
Daniel Morin ?
Moi, c'est Fantomette. le personnage de Fantomètre.
Tu dis n'importe quoi.
Bien sûr.
T'es casse-pied, tu veux jamais répondre. Sois sincère pour une fois dans ta vie.
C'est hors de question. Non, mais puis quoi encore?
Alors, moi, c'est Saint-Exupéry. Évidemment, Le Petit Prince, mais c'était. Et Paulo Coelho. Alors, c'était aussi c'est une question de génération, évidemment. Puis il y avait le prophète aussi. Et puis tu es là en train. Khalil Gibran, tu es là en train de. Avec des livres qui passaient dans tous les anniversaires. À chaque fois qu'il y avait un anniversaire, il y avait toujours l'alchimiste ou le prophète qui était offert et qui marque comme un conte philosophique, en fait. Et c'est là où on voit que la littérature, on s'identifie, on essaye de trouver peut-être une pensée ou sa place dans la vie ou dans le regard des autres. Camille, alors pour sortir du film, on en reparlera jusqu'à midi et demi, vous inquiétez pas, de Diane Hassel. Est-ce que vous, il y a un auteur ou une auteur qui vous a touché?
Ouais, bah comme tu dis, plein.
Balzac aussi, ouais. Ah non, pardon.
Non, Balzac carrément. Peut-être David Foster Wallace.
Oui, oui.
C'est un auteur américain qui s'est suicidé malheureusement. Et j'ai adoré sa plume. Il avait un humour cinglant, très je m'en fous. Il se pavanait un peu dans une attitude. Il se foutait de sa propre gueule, de l'intello gaucho qu'il était.
Mais est-ce que c'est un livre qui vous a changé? Parce que c'est ça aussi, les œuvres qui d'un coup font... On lit et qu'on se dit, on ferme le livre, on dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, parce que j'ai appris, j'ai découvert, ou je m'intéresse.
Peut-être le livre de ma sœur. Je fais de la pub, elle va
m'intéresser. Très bien.
Ma sœur a sorti son premier roman il y a un an, qui s'appelle Vierge, de Constance Rutherford. Et
ça vous a changé?
C'est émouvant. Ça m'a bouleversée.
Ouais. Ok.
Ouais, carrément. Ouais.
Tellement c'était personnel et tellement vous...
Tellement je trouvais ça drôle et désespéré à la fois.
Charlie Hanson, est-ce qu'il y a un livre de la littérature française ou anglaise qui vous a...
Oui, plusieurs. Enfin, je vais en mentionner un livre que j'ai lu pendant qu'on tournait, le film Jane Austen a gâché ma vie. Justement, j'en ai lu deux. Je suis d'abord retourné sur Jane Austen et j'ai regardé Northanger Abbey, qui est un des livres les moins connus de Jane Austen, mais qui est très irrévérencieux, qui se moque beaucoup de l'époque de Jane Austen et qui en fait une satire et
avec cet humour anglais très particulier.
Voilà, mais c'est
de l'autodérision.
C'est de la dérision. Ça se moque de l'époque, mais avec douceur, donc, et avec légèreté et avec tendresse. Et je pense que c'est quelque chose que j'espère que notre film fait aussi, c'est-à-dire que ça remet en cause et ça remet en question un petit peu les mœurs de l'époque, mais sans être dur et sans être acerbe, en fait.
Encore une fois, est-ce que ça vous a changé? Est-ce que
moi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Il y en a un autre qui m'a marqué pendant que j'ai lu pendant qu'on tournait, c'était Light Years de James Salter. C'est un auteur américain dans les années 70 qui a écrit ce livre qui parle de la désintégration d'un couple, mais de l'espoir qu'on trouve au-delà du cœur brisé. C'est aussi un thème dont on parle un petit peu dans notre film et qui va entre l'abstrait et le figuré, quoi. C'est un auteur qui part volontiers sans se gêner dans des images complètement abstraites, mais qui marquent beaucoup, qui sont super poétiques et j'ai adoré. Donc James Salter.
Très bien, ça fait plein de conseils littéraires et c'est vrai que ça trouve écho avec le film qui sort aujourd'hui et que vous venez présenter, Jane Austen a gâché ma vie.
C'est un très joli film.
Qui est une comédie romantique comme on aime. On sait que ça va finir avec une histoire d'amour. On ne sait pas par quel chemin on va passer ou quelle histoire d'amour on va vivre et connaître, parce qu'il peut y en avoir plusieurs également dans ce film. À vos côtés, il y a l'excellent Pablo Poli, à côté de vous deux, donc, de Charlie et de Camille. Il y a également Annabelle Landgren, Liz Crawford, Alan Fairbairn, Lola
Piplow,
merci, Alice Buteau, Romain Angèle, Frédéric Weisman et Pierre-François Garel, et c'est réalisé par Laura Piani. On a quelqu'un qui est fan de vous deux, de Charlie et de Camille, c'est All the Love. Oh yeah.
Je suis fan de Camille Rutherford. Je suis fan depuis que je suis devenu l'homme. Ford. C'est la plus anglaise des comédiennes françaises. Elle prend toujours de la jelly dans ses mayonnaise. Je suis fan de Charlie Hanson. J'étais déjà fan à l'époque des trois frères Hanson. C'est le plus français de tous les acteurs anglish. Il prend toujours de la jelly avec son haggish. Et vous êtes là pour Jane Austen à gâcher ma vie. Une merveilleuse et si romantique comédie. Agathe est une célibataire endurcie. Oliver la désire lui aussi s'endurcit.
Oh, non,
ah, c'est pas si romantique. Ouais, pardon de vivre. Je suis fan des belles histoires. Je suis fan des belles histoires romantiques, ça m'éclate. Comme Roméo et Juliette ou Daniel et sa main droite. Camille, on sent que votre personnage Agathe est en pleine crise. Elle est tellement triste que parfois elle en est presque grise. Agathe Gilles, dans sa librairie, ça la fout hors de contrôle. Que Félix l'ait juste inscrite à un stage d'auteur dans la campagne anglaise triste. Elle prend le shuttle, arrive en Grande-Bretagne. Oliver l'accueille tout mou. Elle fait la gueule, il lui fait le coup de la panne. Et il ronfle, c'est pas foufou. Agathe pense qu'elle attire que les relous. Prends un thé à la menthe, ouh, ouh, ouh. De l'agneau à la menthe, l'agneau à la menthe, ouh, ouh, ouh. La jelly à la menthe, à la menthe, ouh, ouh, ouh. The one I need, oh yes indeed. Ouais, je suis fan de vous et de Jane Austen. Et dire qu'elle a connu Michel Drucker jeune. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec...
Où ça donc?
La bande originale.
On the left. Ça fait presque anglais.
All the laughs.
Le vieux de l'art.
Non. Ou alors, ouais. All, ou le tout le rire. Tout le rire. All the laughs. Ouais, c'est ça. Ce serait pas mal.
Et sera
tout le
Tahiti,
rire sur scène.
À Tahiti.
Mais non, arrête, c'est mytho.
Mais si.
T'es vraiment à Tahiti?
Oui, le 20 février. À Papeete.
Et tu mets que. Il y a quoi? Il y a 24 heures pour y aller, non?
Alors, parce que j'y vais en bateau, donc plus, il y a 7 mois.
À la rame, très bien, part tout de suite.
Ouais, il y a 23 heures.
Il a un peu résumé quand même aussi quelques facettes de ce film, de cette comédie romantique. Comment vous présenteriez vos personnages l'un et l'autre? Camille, vous êtes une fille qui se cherche aussi bien en amour qu'en job, entre guillemets. Elle veut écrire, mais elle ne sait pas si elle est capable d'aller au bout d'un roman.
Elle vit avec sa sœur et son neveu. Ils forment famille, ils font famille. Ils ont décidé, après un événement tragique, on va peut-être pas tout raconter, de former famille comme ça ensemble.
Rappelez-vous. Allez Camille, un effort.
Ça va revenir.
Je vais me réveiller.
Vous voulez voir la bande-annonce?
Ouais, je veux bien. c'est Agathe, c'est une fille qui est à côté d'elle-même, qui est à côté de sa vie.
Un peu maladroite.
Très maladroite. Et qui vit vraiment, qui se réfugie dans la littérature. Pour elle, la vie est fade et propre et lisse et tellement hypocrite par rapport au roman. La réalité.
La réalité, voilà. Donc elle se projette dans les romans au point de s'identifier, au point de. Elle est prescriptrice, ce qui est le rôle des libraires. C'est-à-dire qu'elle sait presque, d'un point de vue analytique, expliquer comment et pourquoi ce roman irait à tel ou tel lecteur.
Absolument. Elle connaît les romans de Jane Austen par cœur. C'est des livres qui l'ont aidée, qui... C'est un peu sa bouée de sauvetage c'est un personnage qui ne fait jamais l'amour, qui n'a pas donc
non ça
pas
fait deux, alors c'est dit dans la bande annonce, on peut le dire dans la bande annonce, vous dites de mémoire, ça fait 2 ans que j'ai pas fait l'amour et je roule des pelles à mon meilleur ami, donc c'est pour vous dire à quel point je suis dans une situation embarrassante,
misère sexuelle absolue.
Voilà. Pardon,
2 ans ça va, hein.
2 ans c'est pas
oui ça, non ça ouais. va en
Daniel
ça
va. À l'aune
un petit tour de table,
c'est normal, surtout en Angleterre, c'est très normal.
Ah ouais, c'est vrai.
Ça a pas de côté.
Et donc il y a le Jimmy Cricket, il y a le copain en question, Pablo, joué Félix, par Pablo, ouais. Poli, c'est ouais. ça, qui va, et ça aussi on le voit dans la bande-annonce, je ne spoil rien, écrire une lettre ou envoyer en tout cas les premières pages d'un roman inachevé à une fondation dont vous êtes l'un des je sais pas détenteurs ou responsables obligés parce que vous êtes l'arrière petit-fils de Jane Austen, et c'est vous, Charlie, qui allez accueillir dans une sorte de séminaire d'écriture, c'est ça?
Voilà, c'est ça, dans un writer's retreat, on dit en anglais, c'est une sorte de, de convention d'écriture à la campagne, tout le monde allait à l'écart de la société.
Dans les lieux où a vécu,
dans la maison où voilà, exactement, habité par l'esprit de Jane Austen, et donc les écrivains vont se faire infuser par cet esprit et trouver inspiration, et voilà, pas de spoiler, on va pas dire si oui ou non le personnage de Camille trouve cette inspiration,
surtout
ou pas,
si elle arrivera au bout de son roman,
voilà,
c'est ça aussi.
Voilà, c'est ça, mais en tout cas mon personnage ne l'aide pas.
Non.
Tout de suite, il bloque.
Là où il y a cette notion de comédie romantique, c'est dès l'instant où vous l'accueillez, déjà vous attendiez à voir une vieille dame arriver au ferry, et c'est une ravissante jeune fille. Oh. Vous l'emmenez, je suis sincère, Camille, vous l'emmenez dans votre voiture très 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 british. Et en effet, comme l'a dit Oldelaf, il y a le coup de la panne. Ça aussi, on le voit.
Bon, d'abord, elle gerbe sur mes chaussures.
C'est vrai.
Ça, j'ai le droit de le dire, ça arrive tout au début, c'est pas trop un spoiler. Donc, on commence mal.
Non, c'est une prise de contact comme une autre.
Parce que justement, après un drame familial, elle ne supporte pas la voiture. Ça, c'est une évidence pour elle, ça la renvoie, sans mauvais jeu de mots, à des sentiments violents en elle. Mais au-delà de ça, le coup de la panne, et puis surtout cette scène que l'on voit encore une fois dans la bande-annonce, c'est-à-dire qu'elle appelle et elle balance sur l'héritier, en tout cas en français, et évidemment, cut. Je parle français, j'ai compris tout ce que vous avez dit au téléphone. À partir de là, on sait qu'on est déjà dans de la comédie. Ouais.
Voilà, c'est ça. Enfin, on commence par une tension complètement... négative entre les personnages, donc ils sont à un écart, parce qu'ils sont les deux complètement retranchés dans leurs bulles respectives. Mmh. En fait, ils ont chacun leur raison d'être à l'écart de la société, d'être à l'écart de l'amour, d'être à l'écart de tout, des connexions humaines.
Aucun des deux ne trouve sa place, même héritier ou pas, on n'est pas là où on aimerait être.
Exactement, mais quelque part ils sont aussi, ils sont à l'écart et ils sont à l'aise dans leur malaise quelque part. Ils sont justifiés dans ce retranchement qu'ils ont trouvé chacun, et ils sont bousculés l'un par l'autre en fait, parce que c'est ça que malgré eux ils ont cette attirance, je crois, et ça fait qu'ils sortent peu à peu, peut-être, de leur coquille, et voilà, il commence.
Elle va briser la glace assez rapidement par ses maladresses, justement, Camille. C'est ça aussi. Voilà. C'est-à-dire que il y a un côté Gaston Lagaffe, ou enfin, je sais pas quel personnage vous a inspiré, parce que j'imagine qu'on va chercher aussi dans sa culture personnelle, dans ses références, des situations, soit à la Mr Bean, si on veut partir.
Ou Monty Python.
Ou Monty Python, voilà, c'est plus chic, c'est vrai.
Oh non,
non, non, mais.
Joe Biden.
J'entends. Gerald Ford, pour les plus anciens. C'est-à-dire qu'elle se casse la figure, c'est-à-dire qu'elle elle est maladroite, elle fait des gaffes.
Ouais, tout le temps. Bah après, c'est pas très, ça pour le coup, c'est pas très éloigné de moi dans la vie.
Vraiment? À ce point?
Je suis assez maladroite, ouais.
Mais pas au point de vous faire mal ou de tomber dans les forêts ou de vous...
Ah si.
Charlie confirme, ok. Même sur le tournage, alors vous êtes maladroite aussi, vous prenez les pieds dans les câbles des projecteurs.
Charlie va pouvoir répondre,
J'ai le droit de me moquer parce que je le suis tout autant. Donc voilà, je crois qu'on a été très bien casté sur ce point-là.
Vous ne vous connaissiez pas avant?
Non.
Vous avez cette comédie romantique là où elle est un peu particulière aussi, c'est que les comédies romantiques, il y a deux personnes que tout oppose au début du film et qui vont forcément finir ensemble à la fin. La nuance, c'est qu'il y a le pote qui vient se mêler un peu dans ce couple, dans ce trouble finalement, et qui vient troubler l'histoire naissante.
Absolument. Ouais. Donc Félix, qui est le meilleur ami d'Agathe et qui travaille à la librairie avec elle, et comme tu l'as dit, c'est lui qui va envoyer un énième début de roman, parce que Agathe, elle arrête pas de commencer des romans qu'elle achève jamais. Et sans lui dire, avec sa grande sœur, ils vont envoyer son début de roman. Évidemment, elle est sélectionnée par la Jane Austen Society. Et en fait, je sais pas si je peux tout raconter.
Il se mêle de sa vie,
oui,
qu'elle soit.
Mais pour l'aider.
Mais parce qu'il est amoureux quand même, lui. Et d'abord, il y a de l'amour dans l'amitié. Donc après, la question est de savoir, est-ce que c'est sex friend ou est-ce que c'est friend.
Oui, parce que c'est un amoureux un peu particulier quand même, le personnage de Félix. Il aime bien entamer des relations avec des filles, pas forcément donner de nouvelles. Enfin, c'est un séducteur.
Absolument.
Aussi.
Ouais.
Ce film est tendre, il est drôle, il est rafraîchissant. C'est un plaisir, c'est un bonheur et superbement.
Il y a du vomi quand même.
Il y a du vomi.
Vous êtes averti.
Ça reste british. Hein. Tout n'est pas dans le bon goût non plus. Hein.
Oh.
Bah je vis avec une anglaise, donc je sais de quoi je parle.
A gâché
ma vie. C'est au cinéma à partir d'aujourd'hui. On en parle jusqu'à 12h30. Mais voici Lisa Delmoitier. Est-ce que vous, Lisa, vous n'auriez pas fait le film comme ça, les comédies romantiques?
Non, c'est bien simple. Jane Austen a gâché ma vie. Voilà. Ça commence à faire un peu long comme titre. Mais moi, j'aime bien les longs titres de films ou de livres, hein, comme Jane Austen a gâché ma vie, Pourquoi j'ai mangé mon père, ou encore le classique 5 bonnes raisons de frapper un dauphin dans la gueule. J'adore ce livre, je jure, c'est un vrai livre. Et croyez-le ou non, le fait que les dauphins soient des violeurs est même pas dans le top 5 des raisons de leur casser le nez. Faut te dire à quel point c'est les trous du cul. Enfin bref. Mais Jane Austen a gâché ma vie. Parce qu'au début du film, votre personnage, Camille Rutherford, explique qu'il y a un livre de Jane Austen pour tout moment de la vie. C'est marrant, c'est un peu comme mes chroniques. Il y a une chronique qui vous correspond à tous. Hein. C'est vrai, Daniel, par exemple, est dans un chapitre de vie qui correspond à ma chronique « C'était mieux avant », couplé à 50 nuances de racisme. Voilà. Paul de la fille dans sa phase « L'avenir dans tes grosses boules », Bruno, le petit blond d'Amérique du Sud, grosse phase « Hitler à tricycle ». Puis Camille, on s'est croisés aux chiottes, on est clairement dans une longue période « Je suis trop poilu ». Camille Labave, pas Camille Rutherford, ouais, je ne me permettrai pas, je parle pas de poil au premier rendez-vous. Et Camille vous dit aussi qu'il existe un personnage de Jane Austen qui correspond à chacun de nous. Votre personnage, elle, c'est Anne Elliot, parce que c'est, je cite, une vieille fille qui s'est fanée comme une fleur qui n'aurait pas reçu assez d'eau. Je traduis pour les beaufs autour de la table, la Elliot, elle a pas ken. Voilà. Et ça m'a intriguée, j'ai donc cherché sur Google un quiz pour savoir quel personnage de Jane Austen je serais. Pour ceux qui voudraient le faire, c'est sur le site de BuzzFeed. Et vous savez qu'est-ce que j'ai comme réponse?
Vas-y.
L'autre fleur séchée d'Anne Elliot. Voilà. Ça m'a trop déprimée. Je suis tombée là-dessus. Et c'est vrai que je suis pas la plus stable en amour, mais il m'arrive quand même des aventures, quoi. Je sais pas pourquoi je me justifie, mais j'ai quand même besoin de me justifier. Mais comme autre personnage, Camille, l'amour dans la fiction me semble toujours un peu plus romantique que dans ma vie. Moi, mes histoires ne durent jamais très longtemps, quoi. Je vois pas beaucoup les mecs. Pour vous dire, mon dernier mec, je crois que j'ai plus vu l'interstice entre les coussins de son canapé que son visage.
Oh non.
D'ailleurs, s'il cherche, c'est là qu'elle est, comment là. Voilà. tu trouves de ces dingueries en levrette. Oh, 2 euros, bah, c'est pour moi, t'avais qu'à nettoyer ton canapé. Non, mais j'ai toujours un peu de mal avec les comédies romantiques parce qu'elles vendent du rêve. Quoi. Au début, je vois l'affiche de votre film, je vois le casting, Camille Rutherford, Charlie Hanson, comment veux-tu m'identifier? Ils sont frais comme la rosée du matin, moi je suis fraîche comme un cadavre de la mort. Quoi. On n'est pas du tout sur le même profil. Généralement, devant une comédie romantique, je n'arrive pas à profiter parce que je suis trop jalouse. Je regarde le film et peu importe la comédie romantique, je passe toujours 1h30 à me dire, mais putain, moi, pourquoi un beau mec a jamais traversé l'aéroport pour m'empêcher de prendre mon avion, quoi? Ça m'arrivera jamais. Soyons honnêtes, la seule probabilité dans la vraie vie qu'un mec m'empêche d'arriver à destination, c'est si c'est un terroriste. Hein. Vous imaginez, le mec défonce la porte du cockpit, Allah, Wakbar, et puis moi, que la séco, un bébé. Dire, tu voulais pas que j'accepte ce job à New York. Inutile de rejoindre Al-Qaïda, un bouquet de roses aurait suffi. Mais le film Jane Austen a gâché ma vie parce que c'est une comédie romantique dans laquelle je peux me reconnaître avec une héroïne un peu maladroite qui galère comme moi, mais qui rencontre quand même l'amour. Alors me revoilà à croire en l'amour, et ça, c'est dangereux, mais moins qu'un dauphin.
Merci. Lisa Delmoitier.
Sur scène, après-demain à Moucron, samedi, à Tournai, pour son fabuleux spectacle intitulé « Tiens, 2 euros
». Quand vous vous êtes mise à lire ce scénar, qu'est-ce que vous avez imaginé? Est-ce que tout était précis dans les didascalies? Vous avez vu à la fois le côté romantique, à la fois le côté comédie? Parce qu'on dit maintenant comédie romantique en oubliant peut-être trop le romanesque dans cette histoire. Ou est-ce que vous l'avez... Enfin, quel a été votre premier sentiment à la lecture?
Bah, je trouvais que c'était très bien écrit et il y avait plein de scènes extrêmement drôles. Notamment des scènes que, enfin, souvent quand je lis un scénario, je sais pas si c'est, peut-être les comédiens, on fonctionne comme ça souvent, mais il y a des scènes qu'on a trop envie de jouer. Et il y avait la scène, justement, où Agathe, elle arrive, elle est toute sale, elle pue, parce que la voiture de... est tombée en panne, et du coup, elle s'enlève ses fringues dans la chambre, elle ouvre une porte pour aller dans la douche, et en fait, oui. Ah, merde, si je le dis.
Non, c'est malin, Camille, de dire je suis nu dans le film, allez voilà, voir le film. Voilà. Ça spoil pas, c'est tout. C'est de la promotion. C'est bien vendu.
Non, voilà. Mais voilà, je trouvais ça très drôle à jouer de comme situation d'une fille qui se dessape et elle est toute dégueu, elle est toute schlag et elle ouvre la porte. En fait, elle est pas dans la salle de bain, elle est face et elle hurle comme. Comme je sais pas.
Évidemment. Évidemment, c'est drôle. Et moi, ça m'a fait penser à quelques scènes comme ça de Jane Birkin aussi qu'elle avait tourné avec Pierre Richard, avec toute cette maladresse, ouais, mais en même temps ce charme fou. Et c'est ça qui est dingue. Et tous les deux, dans vos maladresses, dans votre mal-être, dans votre quête de trouver votre place dans la vie ou dans la société, vous êtes extrêmement charmants tous les deux. Dans parce qu'on a envie de vous protéger, on a envie, mais en même temps on a envie de rire et de s'excuser, de se moquer de vous quelque part. Et puis il faut dire quand même, Charlie, les choses, il y a ce côté Hugh Grant qu'on a dû vous sortir 20 milliards de fois et évidemment, mais c'est un compliment dans ma bouche de jouer à la fois cette fragilité et à la fois ce charme.
Non, mais je pense que Hugh Grant qui écoute cette émission est très flatté régulièrement. Très flatté de savoir qu'il me ressemble.
Vous avez cultivé ça dans le jeu de la voiture, notamment.
Ça fait partie de... Il y a toute une tradition de la comédie romantique. Donc notre comédie à nous, quelque part, elle reflète ce qui a été fait avec les working titles, les coups de foudre à Notting Hill, etc., dans les années 90.
Avec encore des librairies.
Richard Curtis, exactement, oui. Des histoires de librairies. Donc peut-être qu'il y a un peu un reflet de ça chez nous. Peut-être que j'en fais partie, mais... ouais, c'est, disons, pour reprendre une autre comédie qui est aussi un spin-off de Jane Austen, donc Bridget Jones.
Oui.
Donc voilà, c'est une comédie avec laquelle j'ai grandi. Ça, c'est ce que j'aime avec notre film, c'est que ça part de cette culture-là où il y a aussi dans ce film-là un triangle amoureux, mais où il y a un mec, c'est le romantique vertueux, et l'autre, c'est le
Marc Darcy. Ouais.
Voilà. Et on retrouve ça aussi dans les romans de Jane Austen aussi. Mais je pense que.
Sauf que là, c'est pas vraiment.
Voilà, exactement.
Le cas.
Là, il y a une subtilité en plus dans notre film. C'est-à-dire que l'héroïne fait son choix entre deux hommes, mais c'est pas parce qu'elle choisit pas le personnage de Félix que lui c'est un salaud ou quoi que ce soit. C'est elle l'aime tout autant, même en le rejetant quelque part. Elle se retrouve avec un des hommes par amour, mais elle aime toujours l'autre. Et ça, je pense que c'est une subtilité qui est réelle, qui existe dans la vie. On peut être en relation tout en ayant de l'amour différent pour d'autres personnes.
C'est comme ça que Laura Piani vous a présenté le film, le personnage. Est-ce qu'elle avait besoin de vous le raconter, de vous expliquer ce qu'elle voulait faire passer comme.
Elle a pas eu besoin de l'expliquer vraiment. C'est passé en le lisant, mais pour moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé en lisant le scénario la première fois, c'était l'inattendu. C'était de ne pas vraiment savoir là où ça allait finir. On sait qu'il y a un contrat avec le spectateur. Ouais. Quand on fait une comédie romantique, on sait que ça va finir par l'amour, par la bonne résolution, mais on sait pas par où on va y arriver. Et pour moi, c'était pas certain que, en lisant, que mon personnage finisse avec l'héroïne, ou si le mien était justement le personnage qui allait précipiter le boulet qui allait forcer la réalisation du personnage d'Agathe, qui allait ensuite finir avec Félix parce qu'elle s'est rendue compte de quelque chose. Et ça, je pense, c'est pas clair. C'est pas tout à fait clair et c'est bien.
Est-ce que la réalisation féminine est remarquable dans votre carrière? Il y a évidemment la référence à Anatomie d'une chute de Justine Trier dans laquelle vous avez joué, Camille Rutherford, le fait que ce soit une femme derrière la caméra qui vous dirige, comme là avec Laura Piani, ça change la manière de jouer ou de percevoir les scènes? Ou pas du tout? Homme-femme, c'est pareil, finalement, ça reste...
Non, non, si, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Je suis pas du tout sexualisée. Enfin, ça, j'ai déjà été travailler avec des hommes où, oui, il y a quand même quelque chose où on est toujours... embellie. Il faut toujours, pas toujours. Hein. J'ai travaillé avec Bruno Merle deux fois, que j'adore, qui m'a énormément aidé à travailler. Et lui, je suis extrêmement à l'aise avec lui tout le temps. Mais oui, c'est sûr que avec Justine Triet, par exemple, bon, c'était un petit rôle, mais on se ressemble beaucoup.
Un petit rôle, mais dans un film qui a marqué la planète. Hein.
Oui, mais
Anatomie d'une chute. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et on va vous en, va vous en parler longtemps. Hein, préparez-vous
à ça. Tant mieux. J'adore ce film. Et j'adore Justine.
Donc là,
elle, physiquement, on est toutes les deux grandes. On se tient pas très droite. Et c'était tellement
comme
agréable
pour s'excuser d'être grande.
Peut-être, oui, souvent, peut-être, les grands, on a les épaules voûtées parce qu'on, c'est dur de.
Puis c'est dur à porter.
Ouais, voilà. Et elle m'a pas du tout embellie, elle m'a filmé comme j'étais, c'était trop bien de.
Mais c'est
de
ce qui vous a plu justement.
Avec Laura, oui, bah Laura.
Moi, questionné avec Laura quand elle vous dit là, tu seras totalement nue et tu fais ça.
Oui, mais je sais que ça va être drôle. Je dois pas être canon. On s'en fout, j'ai des mini seins, je suis pas parfaite du tout. Et c'est pas ça qui est l'enjeu, et pas que je sois un canon de beauté.
C'est le moment de gêne.
Et c'est surtout qu'on peut jouer avec la nudité et en faire quelque chose de drôle plutôt qu'un truc de désir super chiant à jouer.
Jane Austen a gâché ma vie. Est au cinéma à partir d'aujourd'hui avec ce casting formidable. Camille Rutherford, Charlie Hunnam, Pablo Paoli, entre autres, évidemment, et la réalisation de Laura Pianini. Je voudrais quand même, parce qu'il y a un personnage aussi clé dans ce film, c'est la musique de Peter Van Boyle. Parce que dans les comédies romantiques, il faut toujours la musique, évidemment. Bon, là, on est plus dans la douceur. Peter Van Boyle, qui est un artiste, auteur, compositeur, interprète formidable, et qui là se retrouve à signer, et c'est pas la première, bande originale de ce film qui sort aujourd'hui au cinéma.
Et ce morceau, si tu le relances, j'ai cru qu'à chaque fois je croyais que c'était In the Mood for Love.
Ah oui, c'est la référence. Ah oui.
Ouais.
Non.
Ah, celui-là ?
Non, celui-là. Voilà. Tu dis ça va être The Mood for Love.
Tu veux dire qu'il a pompé sur In the Mood for Love ?
Et la variation est différente après, mais voilà. Ça participe aussi.
Bah oui, mais parce que elle aimerait rencontrer le personnage qui est au fond du
verre à saké.
Du verre à saké.
Que j'ai gardé d'ailleurs.
C'est vrai.
De temps en temps. Ça.
Ah ouais.
Ça fait du bien.
Mais
vous avez la version homme ou femme?
Oui, moi je savais pas qu'on pouvait demander la version homme.
J'ai une version homme et depuis je me suis aussi.
Femme.
Ouverte version femme, comme ça.
Voilà, comme ça vous avez le choix dans la vie. Voilà. C'est pas mal finalement. Un peu comme elle. Voici une autre Camille Lavabre. Hello.
Samedi dernier, j'ai acheté une télé. Alors, je vous vois venir, hein. Une télé, Casta, tu t'es créé en 92, tu joues au POG, t'as voté pour Maastricht, t'écoutes Nagui à la radio. Vous êtes mauvais. Bon, dans un premier temps, laissez-moi m'adresser aux jeunes qui nous écoutent. Tout d'abord, merci à vous trois. Les jeunes. Une télévision, c'est un appareil électronique de forme carrée ou rectangulaire, doté d'un écran qui permet de visualiser Michel Drucker. Voilà. Et en zappant, je suis tombée sur l'émission L'île de la Tentation.
Le
principe. Six couples hétéros sur une île paradisiaque sont répartis dans deux villas différentes. Les mecs sont enfermés avec 10 filles, dites les tentatrices. Les filles avec 10 mecs, dites les tentateurs. Et face à la tentation, toutes et tous doivent faire ce que mon grand-père a courageusement fait dès juin 45, à savoir résister. Moi, je tombe là-dessus. Au début, je croyais que c'était une rediff. Je voyais les casquettes Van Dutch et les piercings à l'arcade. J'étais là, ah, 2006, quelle époque. Quelle époque, l'âge de l'innocence et des clips d'R. Kelly. Mais non, ils ont fait une nouvelle saison de L'île de la Tentation. Je ne sais pas si vous réalisez, presque 10 ans après Me Too, une émission de télé en prime time qui met en scène des femmes officiellement nommées tentatrices. Donc le wokisme a tout envahi, mais apparemment pas W9, quoi. Tentatrice. Je me demande d'ailleurs si tu veux mettre ça sur un CV, tu sais. Poste de tentatrice à Île de la Tentation. C'est des noms renouvelables. Début août 2024, fin août 2024. Poste à responsabilité multiple, onboarding de nouveaux arrivants, activité de team building avancée, entretien dynamique en 1-1. Bon, je sais pas. Et l'émission pousse le vice assez loin puisque les candidats peuvent visionner des images de leurs partenaires dans l'autre villa. Et on va pas se mentir, c'est rarement des images flatteuses. Hein. On est moins sur Pinterest que sur YouPorn, quoi. Clairement, sur l'île de la Tentation, il y en a qui sont venus pour se faire tentater. Et alors, tout ceci est d'une toxicité sans nom.
Tu
c'est
m'étonnes.
Merveilleux. Déjà, les termes sororité et déconstruction ne sont pas encore arrivés sur l'île, je crois. Vraiment. C'est-à-dire que les femmes sont en full compétition entre elles. Elles se comparent, elles s'insultent. Elles sont là, qu'est-ce que ça, c'est Lulite. Elles, oh, le prochain Paris-Dakar, ils le font sur son cul, quoi. Et les mecs sont à la fois hyper jaloux, hyper possessifs et désénormes.
que tard. Vraiment, tu peux avoir un gars en pleine discussion avec une tentatrice qui est là, oh d'où il touche ma meuf en fait, c'est un manque de respect en fait. Genre ils ont à table, t'as ma meuf, elle dit au gars passe-moi le jus d'orange, le gars il prend la bouteille, il lui donne et elle a fait quoi? Elle prend la bouteille. Oh d'où il touche le même objet en fait. Quoi? Une fellation. Ah t'es gentil Shana, mais celle d'hier elle m'a pas déjà trop détendue, tu vois.
Oh non.
Non, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et puis alors les tentatrices, mais quelle délice de régression. Des années de combat pour entendre en 2025 à la télé française une femme séduire un homme en lui disant moi tu vois la vaisselle c'est trop mon truc, genre j'ai besoin de faire la vaisselle, c'est mon plaisir la vaisselle, tu vois. Attends, mais passe à la maison Anne-Sophie, c'est ton anniversaire en plus. Bah écoute, on va faire une cagnotte litchi et on va te l'offrir, ce pack de 6 éponges et ce pack citron. Bah attends, tu rigoles Anne-Sophie, toi aussi t'as droit au bonheur. Je vous jure vraiment, à part dans l'émission, ils n'existent plus ces gens-là, il faut les protéger. En fait, l'île de la tentation c'est un écosystème à part, une biosphère indépendante, un archipel préservé des évolutions sociétales et du fond de teint simple couche. C'est les Galapagos du wokisme, les Seychelles de la déconstruction. Du coup, normal qu'il y ait des espèces indigènes que tu trouves nulle part ailleurs. Les Dylanus misogynis, les Samantae grossophobus, les Jordanis racistarum. Enfin, remarque ceux-là, si. Ouais. Mais alors pourquoi, pourtant, atterré, ai-je continué de regarder? Pire encore, pourquoi y ai-je pris du plaisir? Mais parce que moi, je voulais voir du sale, en fait. C'est ça qu'on vient chercher. Des coups de sang, des cœurs en miettes, des révélations dévastatrices. L'île de la tentation, c'est du porno émotionnel. Voilà. Wow. Et c'est tellement mieux que le porno classique. Franchement, on s'en fout de regarder une fille se faire gangbanger en full HD, alors que pour voir les fossiles de Jennifer se décoller tellement elle chiale sa race parce qu'Enzo lui avait juré qu'Angelina était juste une collègue. Là, ils sont dans la tête. Bon, en vrai, c'était rigolo. C'était rigolo le temps d'une soirée de faire un voyage dans le passé et dans la télé, mais laissez-moi vous dire que ce matin, je suis ravie d'être de retour dans mon époque et à la radio. Et ah tiens, il y a encore Nagui.
Camille Lavabre, merci Camille. On va parler de musique et il y a donc la musique. Dans ce film, Jane Austen a gâché ma vie. On va évoquer aussi l'auteur, hein, Jane Austen, avec Marie-Laure Massé-Chamaillou, qui sera notre invitée dans quelques instants et qui va nous expliquer à quel point elle est culte, Jane Austen, justement, avec ses ouvrages. Mais d'abord, la musique dans vos propres vies. Camille Rutherford, vous écoutiez fin des années 90. Life's not worth a damn till you can say Ayam Walayam. Il y a eu énormément de versions, mais vous voulez celle de Karen Mulder, la top modèle.
Bah c'était, elle s'est sortie en 99, c'était l'époque.
Sûrement oui,
j'avais le single.
C'était pas la seule version, mais c'était la.
Oui, c'était. Oui, mais j'ai mis. Je pensais à l'époque que c'était la seule. Je savais pas que c'était Clara Gaynor à la base.
Gloria.
Gloria. Ouais, c'est la première fois que j'ai entendu
Gloria Gaynor. C'était une mannequin qui faisait partie de toutes ces égéries des Naomi Campbell et autres qui marquaient.
On pouvait voir dans les clips de George Michael, je pense.
Tellement, tellement. Et il se passait quoi dans la vie de Camille Rutherford?
Oui, vous êtes toute petite à cette époque-là, Camille, mais on s'intéresse toujours au début. Et 97, vous avez 7 ans, ça marque vos débuts au théâtre en fait. Comment vous êtes initiée au théâtre et c'est en classe avec un instituteur?
Avec Renaud, mon instituteur de CE2.
Vous l'appelez par son prénom, c'est trop mignon.
Ouais, on a repris contact là récemment. Renaud, en CE2, Paris 19e, l'école Goubet.
Ouais.
Il a changé votre vie?
Ah ouais, bah oui, bah c'était pas, j'aimais pas trop l'école et
vous étiez très grande déjà.
Oui, absolument. Ouais, j'étais déjà une grande gigue. Et il est arrivé, c'était sa première année en tant qu'instituteur et il faisait beaucoup de théâtre et par ailleurs, il était comédien et nous a fait faire du théâtre. On a fait une pièce, on a fait un montage de plein de scènes de théâtre et il m'a fait jouer une scène de Tardieu, un mot pour un autre. Et qui est un auteur qui jouait, bon, comme le nom de la pièce, toujours avec les mots. Et c'était, je sais pas, d'un coup ça m'aidait, ma timidité, je pouvais m'en servir.
Comme outil de jeu.
Ouais,
parfait. Ouais. De votre côté, Charlie Hanson, vous écoutiez très british The Verve. Okay, ça c'est bien. C'est quoi dans la vie de Charlie Hanson, Leïla, à ce moment-là?
Si je récapitule, naissance en Suisse de parents britanniques, ouais. Cursus scientifique pour arriver à ces années-là où on vous retrouve à Cambridge.
Voilà, ouais, c'est un parcours un peu confus.
Pourquoi confus?
Enrichissant. Enfin,
enrichissant, ouais. Mais en allant par 4000 chemins. J'ai aussi découvert le théâtre à l'école, en fait, ouais. en Suisse, à Genève, avec un prof qui s'appelait Michel Barras, et avec mon meilleur ami, qui est toujours un de mes meilleurs amis maintenant, Rodrigo, qui est maintenant ingénieur, qui m'a fait devenir comédien, qui m'a attiré dans ce cours de théâtre, où il y avait un cours débutant, il y avait un cours avancé. Je suis allé directement dans l'avancé parce que mon pote y était, et j'étais complètement hors de mon out of my depth, comment on dit en anglais. C'était, j'étais dans la partie profonde de la piscine, et bon, tout de suite, paf. Et j'ai dû me débrouiller, et je crois que je me suis assez bien débrouillé. Je me suis retrouvé vraiment chez moi, en étant quelqu'un de fondamentalement timide. Avant ça, j'aimais les cours de théâtre, ça me faisait très très peur. Et là, tout d'un coup, il y avait la possibilité d'habiter de mettre une autre peau et de faire autre chose. Et ça m'a fait vraiment sortir de ma coquille. C'était une très bonne thérapie personnelle. Mais après ça, j'ai jamais vraiment cru au métier de comédien tout de suite. C'est pour ça que je suis allé à la fac. J'ai fait des études de biologie. Donc à l'origine, je voulais être, quand j'avais la vingtaine, je voulais être chroniqueur scientifique. Donc ça avait vraiment aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Mais peu à peu, j'y ai cru de plus en plus, et j'étais à une université, ouais, à Cambridge, je vous avais dit, où c'est un endroit d'où sortent énormément de comédiens qui viennent de cet environnement-là. Mais ce qui est intéressant avec Cambridge, c'est qu'il y a pas de faculté d'art dramatique.
Oui.
C'est tout le monde y apprend sur le tas, en fait. Il y a des productions d'étudiants qui font des trucs où on fait plein d'erreurs, en fait. On se pète la gueule, des trucs complètement.
Et on apprend de ses erreurs.
Voilà, exactement. Oui. On apprend de nos erreurs. Personne nous, voilà.
Ouais. En 2007-2008, Camille Rutherford, vous écoutiez Ecstasy. Qu'est-ce que c'était bien, ça. Ah là là. Et elle a son bac, Leïla.
Vous obtenez votre bac et ensuite, vous savez déjà à ce moment-là que vous voulez être comédienne. Il faut simplement savoir quel chemin emprunter. Conservatoire, école, par où vous êtes passé, comment vous...
Corruption.
c'est ça.
Bon, pour être comédien, il n'y a pas de...
Non, il y a plein de chemins.
On peut être comédien de plein de manières. Ça dépend de comment on envisage le métier. Est-ce qu'on dépend que du désir des autres? Est-ce qu'on crée par soi-même? Moi, j'ai fait un parcours vraiment de théâtreuse classique. J'ai fait le Conservatoire de Paris. Donc voilà.
Ouais.
Très
classique. Ouais, avec l'accord parental, la joie, le...
J'ai la chance d'avoir des parents une famille très aimante, très, très cool, qui m'ont toujours supporté. Et voilà.
Supporté ou soutenu?
Soutenu.
C'est l'anglais, c'est joli quand même. Chalianson, vous écoutiez Arcade Fire. Et avant de le retrouver bien plus tard dans Downton Abbey, parce que ça aussi, ça a été un grand moment dans votre carrière, que faisait-il, Charlie, à ce moment-là?
Rome, la série Rome sur la BBC, c'est vos premiers pas, en fait?
Oui, c'était mes premiers pas. C'était des pas un peu embarrassés, parce que c'est des pas que j'ai fait dans une scène d'orgie. C'était la première scène que j'ai tournée à la télé, c'était dans Rome, où j'étais entouré de corps à poil qui avait en fait cette espèce de cycle rythmique d'arrière-plan d'orgie qui était en train de se passer. Et moi, je suis arrivé, j'étais le seul habillé parce que j'étais en armure avec mon casque à plumes pour
livrer
un message. Ouais. Et c'était c'était extraordinaire. C'était un premier jour de tournage dont je me souviendrai toujours. Voilà.
Nous aussi.
Mais est-ce qu'on vous voit vraiment dans cette scène? C'est ça la question.
Ah oui, bien sûr. Bon. Je suis le seul qui parle. Et je suis aussi le seul qui.
Est-ce qu'on regardait pas l'arrière-plan? C'est ça la question de Leïla. Marie-Laure Massé-Chamaillouet nous a rejoint. Bonjour, madame. Êtes maître de conférence en anglais à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié La représentation de l'argent dans les romans de Jane Austen aux éditions de l'Harmattan. Déjà, première chose, Jane Austen.
Jane Austen. Donc, on peut le dire en français, Jane Austen, comme on peut.
On le dit comme on peut.
Comme l'essentiel, c'est d'en parler.
Je vous mets à l'aise. Voilà.
Vous ne m'en voulez pas si je continue de dire Jane Austen. Très bien. Comment l'expliquer, comment la représenter, comment la résumer en une phrase, c'est délicat.
Ah, en une phrase, c'est pas possible. Hein, parce que chez Jane Austen, tout est complexe.
Prononcez bien, s'il vous plaît.
Tout est complexe. Alors, on a d'abord une femme extrêmement discrète qui fuyait la célébrité.
Oui.
Donc là, je vous fais circuler un portrait. Le portrait que l'on voit à la National Portrait Gallery et qui est extrêmement révélateur parce qu'il est tout petit, il est caché au troisième étage dans la salle 5 et il est vraiment minuscule, on est presque déçu quand on le voit, mais ça dit bien qui était Jane Austen, une femme qui a voué sa vie à la littérature et au roman et qui voulait élever le genre romanesque pour lui donner ses lettres de noblesse et qui était... une femme impécunieuse aussi qui est restée célibataire. Alors au début parce qu'elle n'a pas trouvé de partenaire sur le marché du mariage à cause de sa dot, mais qui après a transformé cet obstacle en vrai choix pour lui permettre d'écrire ces 6 chefs-d'œuvre qui font encore sens aujourd'hui.
Son plus grand chef-d'œuvre, ce serait lequel alors?
Ah là, tout dépend des goûts, mais moi je suis quand même comme Agathe Robinson dans le film, c'est ouais. Persuasion. C'est sans doute le plus émouvant et on voit dans le film toute cette nostalgie, ce ton automnal qui rappelle beaucoup la tonalité poétique de Persuasion et puis toute la vulnérabilité aussi de l'héroïne et sa transformation. Et on le voit dans votre personnage qui se transforme et qui atteint toute sa beauté à la fin parce qu'elle a su surmonter tous les obstacles et surmonter les deuils, parce que c'est aussi une belle histoire en termes de deuil réel, mais aussi deuil symbolique.
Oui, alors
comme dans Persuasion.
C'est vrai que le deuil est très présent, ça reste une comédie et on rit, mais ce deuil plane en permanence, comme dans l'œuvre de Jane Austen.
Comme dans l'œuvre, parce que Persuasion est une histoire d'amour avortée avec une héroïne qui vraiment traverse une période de désespoir. C'est vraiment la dérédiction de l'âme. Et alors là, évidemment, c'est la romance qui se met en marche parce qu'il faut quand même qu'il y ait une fin heureuse, même si. Quand on étudie l'œuvre de Jane Austen, et c'est pour ça, je pense, qu'elle nous parle toujours, c'est une œuvre à double fond. Les fins ne sont jamais univoques, malgré le happy end qui est la marque de la comédie romantique, la rom-com. C'est toujours plus complexe qu'il n'y paraît chez Jane Austen parce qu'elle avait cette intelligence-là, cette perspicacité-là, de vouloir proposer à ses lecteurs une œuvre qui les rende acteurs, qui les oblige à faire tout un travail d'interprétation, qui les oblige à évoluer et à questionner l'œuvre, à questionner le genre. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est qu'il se tient à la frontière de différents genres, comme les romans de Jane Austen, là, dans le film. Moi, j'ai noté qu'il est à la frontière de la comédie romantique anglaise, évident, de la comédie de mœurs contemporaine, évident, du heritage film, avec donc les adaptations qui ont fait tout le succès de Jane Austen, la comédie burlesque, parce qu'il y a vraiment des scènes totalement désopilantes, mais qui rappellent les œuvres de jeunesse, de Jane Austen, où elle s'est vraiment fait la main. Et puis, le drame avec toute la vulnérabilité de l'héroïne et qu'on retrouve dans Persuasion, mais qui est aussi, comme c'est le dernier roman, c'est le Chant du Cygne. Jane Austen sait qu'elle est malade, donc elle le rédige dans des conditions vraiment épouvantables. Et elle s'affranchit de tous les interdits qui pesaient sur elle avant, puisque elle se lâche. Et à un moment donné, il y a votre personnage essaye d'écrire et le professeur d'art lui dit « lâchez-vous ». Et c'est vraiment ce qu'on ressent dans le dernier roman où Jane Austen retrouve le romantisme et la romance. Vous vous identifiez à Anne Elliot et Anne, le narrateur dit, on l'avait contrainte à la prudence dans sa jeunesse et elle apprenait le romanesque en prenant de l'âge, suite naturelle d'un commencement contre nature. Et c'est vraiment ça qui fait aussi la beauté du roman et dont on trouve l'écho dans le film.
De quoi est-elle morte ?
D'une forme de cancer.
Vous donnez vos cours en anglais ou en français ?
Alors, je donne mes cours en anglais et en français quand il s'agit de traduire et de faire en sorte que le message passe. Mais je parle de Jane Austen dans certains cours, mais pas dans tous, parce que j'ai l'honneur d'enseigner dans un magistère de relations internationales et actions à l'étranger.
qui n'abordent pas forcément ces romans-là, même si je leur fais tout un mini-séminaire sur le 19e siècle.
Vous posez la question parce que vous êtes passionnante à écouter. Ah bon. Et j'ai
vous devriez faire des conférences.
C'est un prof, quoi.
Ah ouais, mais c'est...
J'en fais beaucoup, de plus en plus, surtout que là, c'est l'année Jane Austen avec le 250e anniversaire de sa naissance. Donc il y a beaucoup de sollicitations.
Vous avez parlé pendant 3 minutes 30 sans être interrompu par Nagui. C'est jamais arrivé.
Mais parce que j'ai deux choses à vous dire. Un, vous êtes passionnante et on sent toute cette intelligence, mais qui est faite pour être transmise et pas pour nous écraser de notre manque de connaissances.
Surtout pas.
Mais clairement.
Pourtant, on est vraiment con.
Et merci surtout pour l'élégance, le respect et la politesse dans votre travail et la préparation que vous avez faite pour l'émission, en voyant le film, en le portant, en le comprenant et en l'expliquant aussi bien. Merci d'être qui vous êtes, Marie-Laure. Ouais. À bientôt, j'espère. Oui. Marie-Laure Massé-Chamaillou, un nom qui reviendra dans cette émission. Je suis tombé amoureux d'elle, ouais.
Surtout que nous, on n'a pas vu le film, donc c'est bien d'avoir quelqu'un.
Tu pars. Voici Bruno Pecky.
Bon, les frérots, faut que je vous raconte. La fois où je suis allé en prison. Oh. Et ouais, vous pensez me connaître, mais au fond, je suis aussi un bad boy. Il y a pas que Daniel qui a un passé douteux. Bon, je vais être honnête dès le début. Si je suis allé en prison il y a quelques années, c'était pour faire du stand-up avec quelqu'un que vous connaissez en plus, Thomas Wiesel. Voilà. Alors j'ai appris par la suite que s'il avait accepté de faire ça avec moi, c'était pas à cause de mon talent, mais uniquement pour mon physique. Il m'a avoué qu'il avait un peu peur et vu qu'en prison j'ai plus de valeur que lui. Bah pour ralentir un groupe de détenus, tu jettes le stagiaire à rien plutôt que l'informaticien lunetteux, quoi. Alors je précise qu'on est allé dans une prison suisse, Et le premier qui me dit qu'en Suisse ça doit pas être des prisons mais des palaces et que le détenu doit se torcher avec des billets de banque tout en regardant le temps qu'il lui reste pour peser sa peine sur sa Rolex, et ben je lui répondrai calmement que non, qu'il confond avec les possibles conditions de détention d'un ancien président français. La preuve que le système carcéral suisse galère, dans les années 70, il y a une prison suisse qui a accueilli Johnny Hallyday et Raymond Devos.
Mais voilà. Non.
Ouais, je te jure, 50 ans plus tard, il se retrouve avec Thomas Wiesel et Bruno Pecky. On est clairement sur un budget en chute libre, quoi. Donc avec Thomas, on allait tous les deux en prison. Enfin, je suis rentré en premier, 15 minutes après, je suis revenu sans aucune trace, donc il m'a rejoint. En fait, on y allait pour faire un spectacle, mais avant ça, on faisait un atelier de stand-up avec 5 détenus. Évidemment, on savait pas ce que chacun avait commis, et on voulait pas le savoir, hein, parce qu'on n'était pas là pour juger. Mais à la fin de l'atelier, on nous a demandé de choisir le meilleur d'entre eux pour faire la première partie de notre spectacle. Wow. Ah bah à ce moment-là, on aurait aimé savoir qui avait fait quoi. Quand même. Mais on est resté impartial et on a choisi celui qui avait l'air le plus dangereux, le plus drôle. Et le spectacle s'est super bien passé. Pour des raisons de sécurité, on pouvait que jouer devant 10 détenus. Pour Thomas, c'était bizarre. Pour moi, ça changeait pas de mystère. La seule différence, que là, personne s'est levé avant la fin pour partir. Il faut dire ce qui est, on a géré. Le mec en première partie a cartonné avec une blague où il se foutait de la gueule du budget de la prison en disant que 50 ans en arrière, il y avait Hallyday et Devos et maintenant c'est Pecky et Wiesel. Oui, je lui ai piqué sa blague, mais il est enfermé encore longtemps. Qu'est-ce qu'il va faire? Bref, après lui, c'était notre tour. Je suis passé en premier. Encore. Et là, j'ai fait l'erreur de commencer en faisant de l'interaction avec le public.
Waouh!
Ouais, évidemment, je suis pas complètement teubé, donc j'ai pas commencé à insulter le premier rang. Par contre, j'ai eu la brillante idée de demander s'il y avait des couples dans la salle.
Oh non!
En vue du silence, je me suis dit que j'avais foiré, quoi. Et j'ai commencé à paniquer. Et moi, quand je panique, je dis de la merde. J'ai dit, en tout cas, je suis très content d'être ici. J'espère que vous aussi. Deuxième bide, je panique encore plus. Tu vois, par applaudissement, il y en a qui sont venus en métro. Bah non. En fait, en fourgon de police, tous. Non, ça partait super mal. Mais j'arrive à les récupérer en disant, vous savez, c'est pas la première fois que je vais en prison. J'ai déjà joué au Monopoly, petit rire, rire. Ouais. Donc je continue et franchement, il y a pas mal de points entre le Monopoly ici. Vos cellules ont exactement la même taille que la case prison. Bim, gros rire, je commence à me chauffer. Tu vois. Et j'ai déjà été en prison jouant la balle aux prisonniers. Vous savez ce jeu là où quand vous avez été touché, vous filez en prison, il faut attraper la balle pour pouvoir sortir. Et en discutant avec un de vos co-détenus ce matin, il m'a dit que ça faisait 5 ans qu'il était ici. Je lui ai dit, mec, si en 5 ans t'as pas réussi à attraper la balle au moins une fois, c'est de ta faute, quoi. Boum, fou rire des mecs, applaudissements, j'étais fier de moi, quoi. Après, je me suis rappelé que j'étais leur première source de divertissement depuis des années, tu vois. J'ai relativisé, quoi. C'est pas moi qui étais drôle, c'est eux qui avaient besoin de rire. Manquerait plus que je bide devant des gens privés de liberté, vivant dans des conditions parfois inhumaines, quoi. T'imagines, ils sortent de prison, on leur demande, alors, c'était quoi le plus dur? L'enfermement, la surpopulation, l'insalubrité? Franchement, le spectacle de Bruno Pecky. Ouais, évidemment, tout ça, c'était selon mon point de vue. Hein, ce serait super intéressant de demander à un détenu qui a vu le spectacle comment il a vécu. Et pour ça, je laisserai Daniel vous partager son expérience.
Merci, Bruno Pecky.
Bruno, demain à Paris, ou ça à la petite loge.
Tanguy Pastureau, dans la dernière demi-heure, tu vas parler de...
Je veux parler du miel érectile. Sur Internet, on vend que ça, c'est du miel, mais qui vous revigore au niveau intime. Bien sûr, c'est illégal, comme tout ce qui est chouette, Médiel de Neuf.
Nous évoquons le très bon film qui s'appelle Jane Austen a gâché ma vie, de Laura Piani. Il est sorti aujourd'hui, et deux de leurs interprètes, Camille Rutherford et Charlie Hanson, sont nos invités. Avec Leïla Kadourouddi, Lisa Delmoitié, Camille Lavabre, Bruno Péqui, Éole de Laf, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour Bruno.
Et nos invités Camille Rutherford et Charlie Hanson.
France Inter, la bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Camille Rutherford est l'interprète de ce personnage perdu dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, mais qui a énormément de charme et énormément de rêves aussi, et qui vit sous le poids d'un deuil. Le deuil est très présent tout le long du film, on l'a dit tout à l'heure, avec notre invité Marie-Laure, mais avec cette élégance-là de ne pas être plombant, de ne pas être dramatique, il fait partie de la vie. Finalement, tristement, il faut s'en sortir, peut-être d'ailleurs avec l'élégance d'un livre, avec l'élégance d'une forme d'humour ou de retrouver goût à quelque chose. Et c'est tout le travail de recherche de cet auteur qui écrit, mais qui est... Alors quoi, elle est en manque d'inspiration ou en manque de confiance, à votre avis ?
Je pense que... En fait, c'est juste que Laura, elle arrive... C'est ça qui m'a beaucoup séduit, en fait, à la lecture du scénario, c'est qu'elle arrive vraiment à parler de ce que c'est qu'écrire. Il n'y a rien de moins naturel qu'écrire. Tout nous pousse à ne pas écrire. Et c'est ça que je trouvais génial. C'est qu'en fait, elle arrive à dresser le portrait vraiment d'une... Enfin, moi, qui j'écris pas, c'est les écrivains, pour moi, c'est... Enfin, les gens qui écrivent...
C'est un autre monde pour
eux. Ah, mais c'est... J'ai mis sur un piédestal, c'est okay. Tellement dur. Et elle arrive à montrer... Enfin, moi, elle démystifie la figure de l'écrivain solitaire qui est tout le temps inspiré, qui écrit avec une plume. En fait, elle montre que écrire, c'est souvent être comme ça, les yeux dans le vide, et penser à tout sauf écrire, et pas réussir à se concentrer, et en fait, c'est juste qu'elle écrit, les gens qui écrivent, en fait, c'est ça. Moi, j'ai plein de potes qui écrivent, et j'ai une pote, elle est scénariste, elle est extrêmement talentueuse. Elle me dit, avant de commencer à écrire, il est 15h quand je commence à écrire, avant, je lis toutes les pubs que je reçois par email. Je lis toutes les pubs.
Tous les spams.
Mais vraiment tout. Elle me dit, avant de finalement commencer à vraiment. C'est tellement dur.
Parce qu'elle procrastine, parce qu'elle.
Mais
est,
oui,
c'est
oui.
Ça.
Et en fait, Agathe, c'est pareil. Donc en fait, oui, c'est pas qu'elle veut pas. Enfin, si, aussi, on a tous le syndrome de l'imposteur, tous les êtres humains, je pense.
Oui,
qu'on
mais
l'a
sauf
de gré divers.
Elle l'a dans l'écriture, elle l'a aussi dans l'intimité.
Oui, oui, oui,
elle l'a aussi dans ses amours. Elle l'a même dans sa manière de ranger les livres qui peuvent se casser la figure.
Elle est hyper lucide aussi, je crois.
Peut-être qu'elle a.
Je pense que c'est moins simple d'être très très heureux quand on est très lucide.
Vrai. C'est une bonne. Est-ce qu'on peut être heureux en étant lucide?
Je propose qu'on se laisse pendant 4 jours. On va tous réfléchir et on fera un tour de table après, les gars.
Justement, ce même moment de gêne que nous venons de vivre, il le vit en permanence aussi, votre personnage, Charlie. Il est gêné d'être un héritier, gêné d'être bien logé, bien nourri, bien installé.
Gêné par son père aussi.
Pardon ?
Gêné par son père
ouais,
aussi.
C'est vrai. Qui est régulièrement à poil.
En fait, il y a tout.
Il faut dire qu'il est malade.
Il passe son temps avec son père qui vit le cul à l'air et en essayant de faire semblant que les choses sont normales, en fait. Quelque part, tu essayes de
C'est très anglais de se balader le cul à l'air aussi.
C'est très anglais d'essayer de créer une normalité dans l'absurdité et aussi de créer du bonheur dans la tristesse. C'est le boulot c'est ce qu'on fait avec la comédie. Tu as dit, Nagui, avant qu'il y a ce thème du deuil dans le film, et c'est nécessaire, c'est un point de départ. Souvent, la comédie vient de la tristesse. On voit avec les clowns, on voit avec tant de choses.
Et c'est les situations les plus dramatiques qui sont les plus drôles aussi. C'est quand quelqu'un se casse la figure, il se fait peut-être mal, pardon, mais sur le moment, on rit de voir quelqu'un tomber. Voilà. C'est le cas de toutes les maladresses dans le film joué par Camille Rutherford. Mais jouer la gêne,
c'est très anglais. Ouais. C'est de jouer la gêne sincère et de jouer les silences aussi. Les moments, il y a des moments dans le film où on est ensemble et on ne parle pas. Et c'est dans ces silences, ces vides qu'on découvre l'expression d'un personnage, l'expression émotionnelle qui est dans les yeux. J'espère en tout cas.
Et un humour en tout cas présent, régulier, une musique réussie, signée de Peter Van Paul. Vous auriez pu la chanter, cette BO, Camille, ou pas ?
Bien sûr.
Vous chantez bien ?
Ouais, je chante très très bien.
Et vous, Charlie ? Ok, elle est mytho. Ok, elle m'a dit. Zut, je viens de me rendre compte.
Non, je chante très très bien.
Oui, mais comme vous êtes bonne actrice, j'arrive plus à savoir si c'est vrai ou si c'est faux.
J'ai une belle voix.
J'ai une belle voix.
Moi, je suis un peu mieux qu'elle. Moi.
Très bien.
On va faire une compète plus tard.
Ou un duo. Le film s'appelle Jane Austen a gâché ma vie. Il ne gâchera pas votre journée si vous allez voir ce film. Il sort aujourd'hui au cinéma. Voici Tanguy Pastureau.
Matin, j'avais envie de faire parler de moi. Dans les médias, on a un gros égo, hein. Surtout vous tous d'ailleurs. Et donc, je me suis posté devant la maison de la radio et je me suis dit, je vais faire un salut romain ou nazi.
Oula.
Et toujours avec ça, on parle de vous. Il faut voir la couverture médiatique dingue qu'a eu Adolf Hitler dès 1933 quand il a lancé ce truc-là. Certes, ça a poussé les gens sans bras à devenir communistes, mais les autres ont adhéré à fond. Pas besoin d'attaché de presse quand tu fais des saluts nazis. Ok, ça ferme les portes de Quotidien et Quelle Époque. Mais il m'invite déjà pas ces losers, donc j'ai rien à perdre. Ah oui, parce que pour les médias, l'extrême droite, c'est Sonia Mabrouk parce qu'elle a vu deux fois la Vierge et qu'une fois elle a claqué la bise à Zemmour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, un salut nazi, vous êtes blacklisté. Même si ensuite vous faites 20 ans de vidéos TikTok à cheval sur Philippe Poutou, impossible de rattraper le coup. Bref, j'étais là devant la maison de la radio, j'ai commencé à lever le bras, puis Daniel est arrivé, m'a checké la main en criant hey, « Tanguy, mon ami, tape-moi en 5 !» et ça a ruiné mon salut. Et en même temps, ça a sans doute sauvé ma carrière. Et je pense pas que je serais allé jusqu'au bout, puisque j'ai une aversion pour les nazis. Leurs bêtises, leur haine, ces coupes de cheveux, souvent minimalistes, hein, il leur reste 10 mm. Vous croyez que c'est avec ça qu'on va sauver Saint-Algues, hein? Le nazisme est une impasse. D'ailleurs, j'aurais fait un très mauvais nazi, puisque j'aime les juifs. On leur doit quand même Einstein et les boulettes. Et puis la brutalité me révulse. J'aime la douceur. Je suis plus aimé même que MMA. C'est pour ça que le retour du virilisme me déplaît. Aux États-Unis, on voit bien que les mecs veulent qu'on les laisse être des mecs. Moi, j'ai rien contre, chacun est ce qu'il veut. Mais si ça devient la norme, je suis mal. Encore Oldelaf, il a ce côté masculin, hein, qui fait qu'on a envie de se foutre à la place de sa guitare pour se faire gratter par ses mains calleuses de machine à calembour. Qui n'a jamais rêvé, durant l'un de ses spectacles datant d'Oldelaf dans sa loge, le corps vibrant de désir. Puis, une fois qu'il a passé la porte en sueur, avec ce t-shirt taille 12 ans que lui seul juge, adapté à son corps de caribou en rut, il a décidé de se barrer. C'est pour ça que j'ai jamais compris, vous savez, ces groupies des années 70 qui cherchaient à faire l'amour à Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, après le concert. Parce qu'il avait les doigts en sang et les pieds qui puent dans ses bottes. Toujours se taper l'artiste avant sa prestation. D'accord, il donnera moins sur scène, mais une fois dans la loge en culotte de pilou-pilou, mon conseil, pense à toi, pas à la carrière de l'artiste. Ou alors prends un artiste très calme, Alain Souchon. Même si tu le fouettes 10 heures de suite en l'attrapant par son cheveu, une fois sur scène, il interprétera Quand je serai KO de la même manière que s'il avait la patate. Le virilisme, tous ces amers un pick-up de kéké qui tire sur des canettes de bière, pas de bière light, la vraie, celle des mecs qui fait grossir et roter après on tape sur sa tradwife pour vivre comme Charline Galls si ce fragile avait retrouvé ses testicules. Tout ça, moi j'ai peur que ça arrive chez nous. Moi j'ai pas envie de louer un Airbnb dans la Nièvre pour m'apercevoir que le propriétaire, c'est un tatoué poilu qui coupe des bûches en me criant si tu foires le ménage de sortie des lieux, la bûche c'est toi. À part Louis XVI qui n'a pas eu le temps de râler, hein, puisqu'il a été malgré lui introduit dans un gloriole de la tête. Eh ben, en général, on préfère rester entier. Mais voilà, on vit ce moment de revanche des hommes sur l'ajustement précédent qu'il y avait eu en faveur des femmes. Et il faut être costaud, et cruel, et dur, dur de partout. D'ailleurs, hier, alors que je lisais un article sur un site de survivalisme, article intitulé « 14 ans en forêt en mangeant qu'un castor par semaine », j'ai reçu une notification concernant le miel érectile. Le miel, vous connaissez, c'est ce dont on s'enduit le corps dans les soirées gaufrettes. Érectile, vous connaissez aussi, ça vient d'érection. Au contraire, d'érectif, qui viendrait de l'imagination d'un coiffeur, qui avait envie de faire ça comme métier, mais pas uniquement. Sur les réseaux sociaux, une pub sur deux actuellement, c'est pour vendre du miel érectile. En fait, c'est un stick au miel qui fait que trois quarts d'heure plus tard, vous êtes le stick. Donc là, vous dites, des années que je mange du miel et pour autant, ma sexualité, c'est le calme plat. À part un ours dans un zoo qui m'a fait de l'œil, mais enfin, c'est tout. Et ben ça, c'est parce que le miel érectile ne comporte pas que du miel. C'est trafiqué, ils y mettent aussi du Viagra. Alors voilà, on peut aussi faire ça avec de la choucroute. Hein, en fait, on obtiendrait une choucroute érectile. Mais disons qu'avant l'acte, ce serait moins discret. Dis-moi, bébé, avant de te rejoindre sous la douche, comme tu l'as suggéré, que dirais-tu d'une bonne choucroute ? Voilà, en dehors de l'Alsace, le concept ne prendrait pas. Alors que le miel érectile, c'est une sucette. Personne ne se doute de rien. La personne à qui vous avez donné rendez-vous se dit juste, dis donc, si ça c'est un apiculteur, je vais aller jusqu'à leur chambre syndicale pour en trouver d'autres comme ça. Dans la presse, je lis que les saisies de miel érectile explosent en France. On en vend même de manière illégale à l'arrière des bureaux de tabac. En fait, il y a un code, vous approchez du vendeur, vous faites bzzz, il répond bzzz, bzzz. Bon, et là, il part chercher le miel. Voilà. Mais attention, il y a quand même des risques d'infarctus parce que la prise de Viagra entraîne une diminution de la tension artérielle. Et en plus, ça peut entrer en conflit avec d'autres traitements que vous prenez. Ce serait idiot de mourir avec un stick de miel dans la gueule, en pleine érection, dévoré par les fourmis attirées par le miel avant même l'arrivée du SAMU. Hein? Et puis, on est d'accord qu'il suffit de mettre du Viagra dans n'importe quoi pour faire ça. Donc, dans l'Ouest, il va y avoir le caramel au beurre salé érectile. À Toulouse, la chocolatine érectile. Les abonnés à Free vont avoir droit au niel érectile. C'est sans fin. Mais on peut aussi se dire qu'on n'est pas des machines et qu'on n'est pas obligé à chaque fois de surperformer avec tout le corps crispé, les veines du cou gonflées. Soyons Alain Souchon et laissons les Américains être des Américains. Merci.
Merci Tanguy Pastureau.
Sur scène Tanguy, le 4 avril, sera à Château-Renard et le lendemain à Bourg-les-Valences.
Laura Piani signe donc ce film qui sort aujourd'hui. Jane Austen a gâché ma vie avec Camille Rutherford, Charlie Hanson qui sont nos invités, également Pablo Poli et la musique de Peter Von Boll et la lumière, je n'ai pas dit, mais elle est formidablement réussie par Pierre Mazoyer. D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche une nouvelle émission qui sera diffusée sur France Télévisions. Sur Culture Box et sur le site de France TV, elle s'intitule Conciliabule. Le sujet concerne des millions de personnes, un secteur qui ne connaît pas la crise. Et bientôt, il y a le rendez-vous annuel qui est consacré à cette discipline. Bravo, Tanguy.
Conciliabule.
Conciliabule.
Ah, moi, j'avais pensé au divorce, moi.
Ah oui, c'est vrai.
Bah, oui,
une émission sur le divorce qui concerne, par raison, des millions de personnes.
Et à mon avis, il y en a beaucoup.
Ouais. Et il y en a beaucoup. Mais sauf que le rendez-vous annuel qui lui est consacré, c'est le Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui arrive à la fin de ce mois. Pour l'incarner, c'est Pénélope Bagieux qui a été choisie, confirmant la tendance de consacrer et de donner en fait à des spécialistes l'animation d'émissions spécialisées. Son premier numéro, elle recevra une autrice qu'on aime beaucoup ici, c'est Catherine Meurice, pour parler bande dessinée sur 52 minutes et échanger entre auteurs de bande dessinée sur leurs pratiques. Je n'ai pas encore la suite de la programmation, mais je suis sûre que Pénélope Bagieux fera ça à merveille. Oui, je ne connais pas non plus le rythme de diffusion de cette émission, mais il était temps, j'ai envie de dire, que la bande dessinée ait un rendez-vous. Alors, c'est jamais la bande dessinée le sujet le plus sexy à filmer en télévision. C'est souvent pour ça qu'il n'y a pas eu de rendez-vous BD ou simplement des petites pastilles. Il y en a sur notre antenne, sur France Inter
aussi.
S'il
y a des rendez-vous pour les livres, il peut y en avoir pour les BD. Parce que non plus...
on peut lire des extraits des livres à la BD. C'est ce que fait Trapnard, il lit des extraits complets.
C'est vrai, mais tu peux voir quelques planches.
Il faut mettre en image, il faut réfléchir à la mise en image. Ça demande d'inventer un peu, de créer un peu. Il faut donc avoir envie de mettre en valeur cet art qui est quand même... La BD, c'est en librairie, c'est ce qui se vend le plus. Vous avez grandi avec quelle BD ? Est-ce que votre côté anglo-saxon fait que vous avez eu d'autres lectures que nous, Charlie ?
On a parlé de Titeuf, de Zepp au début.
Ouais. Ah oui, vous êtes suisse.
Ça m'a pas mal marqué. Ouais. Oui, j'ai grandi oui, je suis né à Genève, donc Zepp, je connais.
Mais Mad, par exemple, est-ce que Mad vous faisait partie
dans
de
les
lecture.
Années 80, ça c'était.
Ça c'est quoi Mad ?
Quand j'étais tout
vous
petit.
Vous expliquez.
Ça, c'était. Je me souviens juste de la tronche sur la couverture, la caricature qui m'a beaucoup marqué.
Exactement. C'était très drôle et c'était plein de bandes dessinées anglo-saxonnes américaines peut-être d'ailleurs avec des Charlie Brown et autres, c'est-à-dire qu'on était dans des références de comics aussi.
C'est ça, c'est un magazine qui compile plusieurs BD
comme Pilote quoi.
Fluide glacial ouais.
Et dans les autres références de BD enfants
mais en Angleterre, c'était surtout Beano, c'est une compilation de BD pour enfants avec laquelle j'ai grandi, mais non, j'ai été classique Astérix et Tintin et Tintin, compagnie. Donc j'avais tout ça quand j'étais gosse
et les Mystery et Miss, non ?
Hein, pardon ?
Et Mister Sad, non, et Miss...
Monsieur Madame ?
Oui, les Monsieur Madame.
Ah, bon, ça, c'était quand j'étais très petit.
Aussi.
Ouais. Et maintenant, je les lis à mes enfants, à moi, donc...
Il vient de découvrir.
Il y a beaucoup de chemin pour arriver de là jusqu'à Jane Austen.
C'est anglais.
Et vous, Camille ?
Moi, c'était que des. J'ai jamais lu des BD anglaises. J'ai grandi avec Tom Tom et Nana. Tom Tom et Nana, c'était.
Dans la
et la version dessin animé aussi, sur Minicom, je crois.
Et qu'est-ce que vous aviez de britannique dans votre éducation alors ? Si ça passait pas par les.
La musique rock.
La
musique rock et ouais, mon père.
Les After Eight.
Led Zeppelin et. Enfin, toute la musique rock et le punk anglais que mon père nous faisait énormément écouter. On écoutait tout le temps ça à la maison. Et l'humour. Les Monty Python, Little Britain, Fawlty Towers, tellement drôle. Tous les John Cleese, Laurel et Hardy, que des hommes malheureusement. Mais
c'est vrai, ouais. Ouais. Pas de référence féminine. Poisson, non, encore à l'époque.
Là, je me rends compte que je dis que des, que ouais. Que des mecs. Ouais.
Il y a le comment s'appelle cet humoriste là qui a fait La Mouche en Angleterre,
Fleabag.
C'est trop bien, c'est trop bien, mais c'était pas
récent. Oui, c'est récent. Est-ce que ça fait partie des références?
Ah mais bien sûr, bah elle est trop forte, incroyable, tellement drôle cette actrice.
Et je cherchais une femme drôle justement qui symbolise cet humour anglais. Mais
vous n'aviez pas l'équivalent des nuls, tu sais, genre en anglais.
Non, c'était.
C'était un peu les Monty Python.
Monty Python qui étaient même. Qui ont inspiré les nuls.
Black Sabbath.
Et puis surtout qui nous ont expliqué le vol d'hirondelles et les noix de coco et les effets spéciaux des chevaux au cinéma.
Autre question, on va aux États-Unis à Los Angeles. Vous le savez, l'actualité nous l'a montré à plusieurs reprises. Ville ravagée par les flammes. Il y a une conséquence aussi, au-delà de conséquences humaines et financières, c'est que ces belles maisons étaient dans des quartier souvent cossu, et d'après vous, qu'est-ce qui a disparu avec les belles façades et les beaux appartements?
Les récompenses.
Ah, il n'y a pas des vinyles, des CD, des trucs de collection.
Je vais te le donner, les collections d'art. Beaucoup de collections d'art. Ben oui, parce que si tu as un peu les moyens, sans doute, d'avoir une très belle villa sur Palisades ou je ne sais où, vraisemblablement, tu peux avoir des tableaux ou des œuvres d'art et tu n'as pas eu le temps de les sauver. D'ailleurs, il y a le musée tout proche, le musée Getty aussi, qui a été sauvé. Il a résisté. Il contient une collection de 125 000 œuvres d'art avec du Rembrandt, du Van Gogh, du Monet. Quand les flammes approchent, on commence un peu à s'inquiéter. Il y a beaucoup d'artistes aussi installés à Los Angeles, des artistes contemporains qui ont vu toute leur production brûler en deux secondes.
Dans leur atelier, tu veux dire, carrément, ils travaillaient aussi.
Il y a les artistes et les collectionneurs, donc on peut difficilement estimer la perte que ça représente. On attendra sans doute quelques années avant de le découvrir.
Les assurances.
Ouais, les assurances qui ne pourront jamais, je pense, être à la hauteur de tout ça.
Sous les offres qui sont encore parues, n'ont pas encore de valeur propre en plus.
Donc c'est ça qui est compliqué. S'il n'y a pas eu d'experts, si ça n'a pas été déclaré, si l'assurance ne l'a pas assuré, c'est.
Et puis après des œuvres monumentales, ça devient, je pense, hyper compliqué
à
assurer.
Les studios hollywoodiens ont été touchés ou pas?
Non.
J'ai pas su. Non, il n'y a pas eu de. Mais j'imagine qu'il y a des tournages, pardon, qui ont dû être suspendus.
Ah bah oui, ça entraîne aussi pas mal de, à mon avis, de retard dans la production. Si vous deviez sauver quelque chose, un objet à vous qui vous appartient.
Avant de brûler.
Pas forcément quelque chose qui vaut très cher, c'est pas tant la question, mais qui a une valeur sentimentale.
Un acteur.
Ah, c'est une bonne question ça, Daniel. Oui, d'accord, on fait ça.
Tout Hollywood, t'en sauve qu'un.
Un objet, vous évite de choisir entre vos enfants, tout ça, c'est mieux.
Non. Les enfants, je les laisse.
Ils se brouillent.
C'est un disque signé par Ray Davies des Kinks.
Oui.
Avec qui j'ai fait un workshop d'une pièce, d'une comédie musicale qui parle de sa musique. Je l'ai fait il y a 10 ans en arrière et je me suis approché avec ce disque en disant « Can you sign this for my son ?» En fait, c'est pour moi.
Loin. Les Kinks étant l'un des premiers groupes où les deux frangins se détestaient comme c'était pas permis.
Il y a plein de drames à exploiter dans leur histoire, donc c'est pour ça qu'on voulait la mettre en scène avec leur musique.
« Got me », c'était tellement bon.
Et vous, Camille?
Peut-être mon poster de l'auberge espagnole.
Est-ce que vous gardez l'un comme l'autre des souvenirs de vos tournages? Est-ce que vous gardez des tenues vestimentaires ou des claps de fin ou des scripts?
Là, il y a les petits verres de
Camille.
Il y a les petits verres du coup.
C'est mon petit verre de saké là que
c'est ça qu'il faut
sauver régulièrement. Ah oui, absolument. J'y ai pensé, je me suis dit que ça allait être un peu
trop promo.
Trop wanna be funny.
Et si vous pouvez.
Moi, j'ai gardé les chaussures sur lesquelles Camille a gerbé. mais pas pour de vrai, je les ai nettoyées depuis et maintenant, elles sont belles.
Vous serez Camille Rutherford, alors vous êtes évidemment à l'affiche de Jane Austen a gâché ma vie aux côtés de Charlie Hanson. Vous serez au Théâtre du Rond-Point du 5 au 15 mars prochain dans Dolorosa de Rebecca Krisdorf. Sont trois sœurs, hein, c'est ça? C'est une variation de trois sœurs.
C'est une réécriture des trois sœurs de Tchekhov,
Quelles sont les deux autres?
Actrice,
oui.
Elsa Gedge, actrice merveilleuse, et Marie-Sophie Ferdan, autre actrice. Et Juliette Doucet aussi, Alexandre Steiger, Jean-Christophe Oli, que des acteurs, un super groupe, on se marre bien.
Vous serez du mardi au vendredi à 20h30 et le samedi à 19h30 sur scène, le dimanche à 15h. En novembre, vous avez ou vous allez tourner Nino de Pauline Loquès ?
Ça s'est tourné.
Ça c'est fait, ouais, ouais. D'accord. Et à vos côtés, il y a donc William Lebguil et Jeanne Balibar, entre autres. Trois jours dans la vie de Nino et de ses errances. Frangin Frangine, c'est signé Julianne Roth. Là, vous êtes avec Panayotis Pasco et Salif Cissé. Une comédie ?
Alors ça, on n'a pas encore tourné.
Ah pardon.
Ça sera à partir du mois de juin, non, je crois. Ouais.
D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de Bruno Maire, pour lequel vous aviez une tendresse, et vous allez le retrouver bientôt.
On vient de terminer une série qu'il a écrite et réalisée, et qu'il a écrite avec Emmanuel Destremo, et qui s'appelle Extra Lucide.
Très bien.
Avec Sabrina Ouazani,
que vous aviez hier. Oui, j'ai entendu.
Et quant à vous, Charlie, vous allez être vu par des millions de personnes dans quelques semaine, puisque God Save the Tuche.
Oui, exactement.
Vous êtes dans
voilà,
les tuches.
Voilà, exactement. Encore de la comédie et encore une fois l'anglais de service.
Ouais. Signé Jean-Paul. C'est un créneau. Hein, il faut
l'exploiter.
Absolument. Vous serez dans Ghost également, aux côtés de Camille Chamou, adaptation de la série anglaise.
Ouais, exactement. Donc ça a commencé par l'Angleterre. On a ensuite fait une version, paraît-il, moins bien en Amérique, et la version améliorée en France maintenant.
Voilà, ça upgrade. En tout cas, vous êtes tous les deux absolument merveilleux dans Jane Austen a gâché ma vie. C'est aujourd'hui au cinéma, signé Laura Piani, avec également Pablo Poli. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour nos auditeurs friands de comédies romantiques qui ne se sont pas reconnus dans la promo faite par nos invités de ce matin à base de « Elle m'a vomi sur les pompes » ou encore « J'adore être toute crade à poil ». C'est vrai que la tradition a pris un petit coup dans la truffe. Désolé pour tous ceux qui croyaient que le côté British, c'était le chic ultime, le 5 o'clock tea, Downton Abbey ou les crumpets. Eh ben non, la classe British est de se balader le cul à l'air, matin et soir, seul ou en public. Je me disais que t'avais un petit côté English, Nagui. Fallait juste savoir que c'était dodo. Désolé pour nos auditeurs incultes et donc fans d'Oldelaf qui ont trouvé que ce matin, on avait beaucoup trop parlé culture et littérature à base de « et que j'aime les écrivains new-yorkais contemporains » ou encore « et que j'aime la bite et Camus ». Eh oh, j'ai pas signé pour ça, moi, les gars. J'espère que demain, on parlera enfin football et flatulence avec Isabelle Huppert.
Absolument. Isabelle Huppert sera notre invitée demain. Merci Camille, merci Charlie et bravo
merci
encore. Allez voir Jane Austen a gâché ma vie. C'est aujourd'hui au cinéma. Carnet de campagne, c'est immédiatement avec Dorothée Barba.
Oh oui. Bonjour les amis.
Coucou.
Aujourd'hui dans les carnets, on parle d'ateliers qui sont organisés avec le grand public pour rédiger les fiches Wikipédia des résistantes du Morvan. Des femmes qui ont participé activement à la résistance et dont les noms ont été complètement oubliés. Elles ne sont pas sur Wikipédia et c'est un scandale. Il faut faire quelque chose.
Ok, on compte sur vous.
Merci beaucoup, bonne émission.